Bienvenue à tous, bienvenue sur le petit plateau qui eh bien, est en mode printanier plus que jamais, mais qui va changer de décor pour cet épisode, puisque on délaisse les Flandriennes pour attaquer cette fois-ci les Ardennaises. Et pour en parler, eh bien, comme à chaque épisode, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains.
Salut, salut.
Salut Romain, salut Alexis, salut tout le monde.
Alors, on le disait, les Ardennaises, on le sait, elles sont quatre au menu des coureurs dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a évidemment la Flèche Brabançonne, il y aura l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, et puis Apothéose, Liège, Bastogne-Liège. Avant d'évoquer ce quadriptyque ardennais, on va revenir un instant sur les Flandriennes. On a vécu un printemps flandrien assez époustouflant à plus d'un titre, une domination à outrance de la part d'un coureur, Mathieu Van Der Poel, mais aussi d'une équipe, Alpecin, de Seninck, mais de manière générale, époustouflant parce que on a assisté, par exemple, aux trois monuments les plus rapides de l'histoire. Le Milan-San Remo le plus rapide de l'histoire, le Tour des Flandres le plus rapide de l'histoire, Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Vous avez certainement vu passer aussi cette info. Hein. Cyrus Monk, dernier à être entré sur le vélodrome lors de cette édition, a roulé finalement 2 km/h de moyenne plus vite que Fabian Cancellara, vainqueur de Paris-Roubaix 2010, il y a plein d'explications à donner. Et du coup, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet tout de suite. Alexis, Damien, quelles sont les explications que vous avez envie peut-être de mentionner et de mettre en évidence pour expliquer ce printemps flandrien assez incroyable qu'on vient de vivre?
Il y a plusieurs points qu'on peut aborder. D'abord, il y a celui dont on a déjà parlé, c'est les coureurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que on a un phénomène Mathieu Van Der Poel, et en plus de ça, il y a la préparation dans son sens le plus global, dont on a déjà parlé, donc c'est-à-dire tous les petits éléments qui sont faits pour que ces champions aient le meilleur niveau possible. Ensuite, il y a un point qu'on est obligé d'évoquer, je pense, c'est le fait qu'on a un mois de mars et un mois d'avril particulièrement venteux. Il y a énormément de vent, je le ressens même à mon échelle, à chaque fois que je roule, je suis à deux doigts de m'envoler. Et une des particularités de ces Flandriennes, surtout Paris-Roubaix, c'est que la plupart de leurs sections sont vent de dos. Paris-Roubaix, c'est vent de dos constamment, cette année en tout cas avec la direction du vent. Donc ça explique évidemment la vitesse. Et maintenant, un autre point, et peut-être même le point le plus important, c'est cette course à l'armement absolument monstrueuse sur le matériel. On a une recherche et développement digne de la F1, quasiment, comme disait Rodrigo Benkens. Chaque année, les vélos sont de plus en plus rapides. Et maintenant, on atteint vraiment des vitesses totalement folles. Et même si ce n'est pas forcément la question, j'ai quand même envie de faire un lien avec la sécurité des coureurs. On voit des chutes, évidemment. Et à l'heure actuelle, l'effort mis dans le matériel et l'effort mis dans la sécurité des coureurs n'est pas du tout proportionné. C'est-à-dire qu'on a, je parlais de F1, mais justement en F1, en moto, quand les pilotes tombent, ils sont ultra sécurisés. Là, au vélo, on a des coureurs qui vont à du 80 à l'heure sur des routes totalement cabossées, dans des virages à 90 degrés, dans un peloton où ils sont à 30 cm l'un de l'autre, et avec comme seule protection un casque et un lycra de 3 mm. Donc ça va pas, il faut aller, soit il faut une solution, soit on limite le matériel, en limitant par exemple le braquet, ou encore mieux selon moi, en travaillant sur les pneus et les roues, donc avec des roues moins aérodynamiques, des pneus moins résistants en frottement ou autre, ou alors on commence à trouver des solutions sur la sécurité, que ce soit sur le parcours ou alors sur ce que portent les coureurs. Et ça, je ne pense pas que ça va plaire, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, quand on va dans des faux plats à 80 à l'heure, est-ce qu'un petit lycra de 3 minutes est suffisant? Je n'en suis pas si sûr. Donc, tout ça sont des pistes à explorer, mais pour moi, il faut le faire.
Oui, oui. Juste un truc, effectivement, sur la sécurité, on parle de tissu avec airbag incorporé maintenant, mais bien évidemment, ça ne plaît pas. Alors, non. D'abord, il faut voir le confort du cycliste, et puis de toute façon, ça ne sera pas aéro, etc. Donc, ça ne plaira de toute façon pas aux équipes. Mais bien sûr, je te rejoins, il y a une évolution qui est disproportionnée entre recherche de performance et recherche de sécurité. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune recherche de sécurité, mais ce n'est clairement pas la priorité, malheureusement. Pour en revenir aux vitesses, tu as tout dit. Juste un tout petit truc que je rajouterais. Tu parlais des coureurs en eux-mêmes, de leur force, etc. Moi, je dirais aussi qu'il y a les scénarios de course dus à ces coureurs-là, qui ont une autre mentalité. On ouvre la course de beaucoup plus loin. Sur Milan-San Remo, UAE a voulu tout faire péter, ça a roulé assez vite. Sur Paris-Roubaix, bah, ça a pâté très très tôt avec Alpecin qui a fait un boulot incroyable. Je veux dire, voilà, ce sont des courses qui s'ouvrent de plus en plus vite. Le Ronde aussi d'ailleurs, hein, on a eu des attaques assez tôt. Alors ce n'est qu'un petit paramètre, mais je pense que ça joue aussi évidemment.
Ouais, tout à fait.
Oui, mais c'est vrai que on a pu le voir effectivement dans les nombreuses chutes, hein, qui sont finalement une des conséquences de cette recherche d'un vélo toujours plus léger. Est-ce que finalement on a autant de chutes que par le passé, ou est-ce que peut-être cette année-ci, elles ont été plus marquantes parce qu'elles ont systématiquement embarqué les favoris, les outsiders et les coureurs pratiquement tous les plus grands. Après, on se rappelle que l'année passée, tu as des Pogacar chute sur Liège-Bastogne-Liège à cause d'un nid de poule aussi. Donc, c'est déjà arrivé. On sait que sur le Pays Basque, par exemple, ici, ce serait visiblement des racines qui ont poussé sous le tarmac, qui ont déformé en fait la route, et que les coureurs qui ne faisaient pas spécialement attention à ce moment-là, ben, voilà, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un peu déportés, qui fassent un écart. Ben, dans une descente de col, forcément, ça peut
À
rapidement
82.
faire des dégâts. Qui plus est, quand on a vu évidemment ce qu'il y avait à l'extérieur de ce virage avec cet égout à ciel ouvert et toutes les pierres, les arbres qui se trouvaient sur le côté de la chaussée. Mais est-ce que donc, du coup, finalement, il y a plus de chutes qu'avant?
Je pense que oui, en effet, il n'y a peut-être pas beaucoup plus de chutes qu'avant. Elles sont marquantes, en effet, parce que les favoris sont tombés et parce qu'elles étaient particulièrement dangereuses. Je pense, autour des Pays Basques, franchement, on peut s'estimer chanceux, entre guillemets. Bon, évidemment, les chutes, les conséquences sont horribles, mais ça aurait pu être bien pire vu tout ce que tu as expliqué. Mais peut-être que même en étant tout aussi nombreuses qu'avant, peut-être qu'elles sont plus dangereuses dues à la vitesse, à mon avis.
Oui, c'était ce que j'avais. Mais c'est fondé sur rien. Moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, en dehors du nombre, c'est surtout les conséquences. J'ai l'impression qu'ils sont plus graves qu'avant. J'ai l'impression que tu ne sais plus tomber sans qu'il ne t'arrive rien. Alors, je grossis évidemment le trait, mais c'est un peu ce sentiment que j'ai.
Ouais, il y a aussi, selon certains, le fait que on parle beaucoup de pilotage, par exemple, pour justifier ou expliquer pourquoi finalement Mathieu Van Der Poel lui échappe à toutes ces chutes. Beaucoup disent que on a un peloton qui se rajeunit très clairement, qu'on a des jeunes qui ne passent plus par la catégorie espoir, qui a plus le respect finalement des aînés au sein du peloton, et qu'on a des gars qui sont toujours là, de plus en plus jeunes, de plus en plus fougueux aussi, et que ça participe finalement à la chose, avec des oreillettes aussi de plus en plus utilisées, où on matraque de plus en plus les coureurs avec des ordres à gauche, à droite. Enfin, c'est un ensemble finalement, et c'est ce qui
Fait.
revient dans la plupart des discours qui ont lieu finalement ici, la sécurité des coureurs, c'est de se dire il faut une discussion globale entre bien sûr les coureurs et les organisateurs, mais également avec les équipementiers, etc., qu'on ait quelque chose de plus global finalement que simplement se dire on va peut-être limiter un vélo ou peut-être mieux protéger un virage ou que sais-je.
Je pense qu'il y a plusieurs pistes à explorer et tout ce que tu as dit est très vrai. C'est pas un secret qu'il y a certains coureurs moins bons pilotes que d'autres et qui sont un petit peu plus souvent que les autres. Mais en plus de ça, un dernier point peut-être, c'est les GPS, les Garmin. Il y avait une image totalement hallucinante à Paris-Roubaix et je pense qu'ils l'ont filmé, c'est pas un hasard, ils ont fait exprès, de Tom Pidcock qui pendant 30 secondes dans le groupe de
Oui.
tête, donc dans les roues, chipotait à son GPS. Mais c'est fou. Je veux dire, c'est-à-dire que pendant 30 secondes, il regarde pas devant lui. Et que donc, ben Rex, pareil, hein, il tombe parce qu'il regarde pas devant lui. Imaginons que au moment où Pidcock regarde son GPS, ben, quelqu'un fait un écart ou peu importe, il y a un truc sur la route, ben, il tombe aussi. C'est extrêmement dangereux. Est-ce que ce serait pas au directeur sportif, en fait, d'analyser les données et de les communiquer via l'oreille? Je sais pas. Mais en tout cas, regarder les GPS, c'est super dangereux.
Ouais.
Oui, ben ça j'aimais bien ce que Behnken et Sogret en disaient. Finalement, c'est comme être avec ton téléphone en voiture. Tu passes ton temps à regarder ton smartphone. Et ils proposaient un écran figé, c'est-à-dire, voilà, tu aurais quand même ton GPS, mais un écran figé avec juste les quelques informations essentielles et que tu ne devrais pas avoir tout le temps tes yeux dessus, quoi, finalement.
Pour terminer la boucle, hein, je reviens ici sur vraiment Paris-Roubaix et ce Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Tu l'as dit en intro, il y a effectivement le vent qui a soufflé très fortement de dos. Hein. Je lisais environ 30 km/h de moyenne jusqu'à des rafales de 60 km/h par moment. Ben voilà, toute personne qui roule en vélo aujourd'hui, alors pas sur un vieux VTT en alu des années 2000, mais sur des vélos de bonne facture, voit inévitablement ce que peut créer comme
C'est clair.
différence des trucs pareils. Alors, évidemment, sur Paris-Roubaix, là, la question ne se pose plus, mais sur d'autres courses, et aussi les revêtements de route, hein, on le voit de plus en plus. Avant le passage d'une grande course, on refait les routes, tout simplement, hein. On a encore ici le cas pour Liège-Bastogne-Liège, qui se passe pas loin de chez moi. Ben, on refait la route pour la course. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté de pouvoir offrir finalement aux coureurs le meilleur environnement possible, ou en tous les cas, celui qui leur permettra d'être le plus rapide possible. Et donc forcément, c'est pas inévitable que l'on batte des records de vitesse sur ces courses. Après, évidemment, ce printemps des classiques, ça n'a pas été que des records de vitesse. On a vu beaucoup de choses. Si vous deviez choisir une image, peut-être ce que vous avez aimé durant cette campagne de Flandrienne, et puis une image de ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez moins aimé sur cette campagne de Flandrienne, ce serait quoi? Indépendamment, bien évidemment, ici des chutes. On va laisser les chutes de côté, et peut-être aussi indépendamment de la domination de Mathieu Van Der Poel, dont on va bien évidemment reparler dans quelques instants.
Ça n'a pas été ma campagne flandrienne préférée, hein. Rien contre Van der Poel en soi, mais ça, voilà, ça n'a pas été ma campagne préférée. Donc moi, ce que j'ai envie de mettre à l'honneur, et ça ne m'étonnerait pas que Romain ait la même idée, c'est ces coureurs qui finissent Paris-Roubaix en étant hors délai. C'est à chaque année on en voit, chaque année c'est des belles histoires, c'est des vrais héros. Certains finissent même alors qu'ils sont plus de 20 minutes hors délai, donc ils savent très bien qu'ils sont hors délai, ils n'ont aucun intérêt entre guillemets à finir, mais veulent finir pour le challenge. Et ben voilà, je me demande aussi si pour ces coureurs-là, pour cette course-là, est-ce qu'il faudrait peut-être pas un petit peu rallonger aussi les délais pour qu'ils puissent figurer au classement de la course.
Clairement, il faudrait. Comme Alexis, c'est pas la campagne qui m'a le plus emballé. Pourtant, vous savez que moi, j'aime quand même vraiment bien Van Der Poel. Si je devais retenir une image, je dirais du coup la foule dans sa grande majorité. Il y a toujours beaucoup de passion sur les routes des monuments pavés, notamment. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais te donner la parole, mais je vais tout de suite spoiler parce que je dois faire le lien avec l'image que j'ai pas aimée. C'est la foule dans sa minorité, c'est-à-dire les imbéciles qui jettent de la bière ou autre chose, et qui feront honte à notre sport.
Oui, ben tu fais bien la transition parce que je vais commencer du coup par mon image négative puisque c'était celle-là effectivement. Jeter de la bière, cracher sur les coureurs, lancer des casquettes. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on n'avait pas avant. Voilà, c'est vraiment dommage et il faut effectivement, je pense, avoir quelques cas emblématiques, je pense, où on va retrouver les personnes, où les personnes se voient infliger une solide amende, et qu'on en parle aussi pour que les autres comprennent bien que ça peut être des bêtises. Et on a déjà vu parfois hein, certains en rire sur les réseaux, en y racheter de la pisse sur les uns et les autres. Mais voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait désormais, et qu'il y a, faut pas rigoler avec ça. C'est mon image, effectivement. Négative aussi. Et l'image positive, ben, effectivement, je crois que c'est indépendamment de tous ces grands champions qui ont été gagnés de très belles courses, ben, c'est tous ces coureurs qui vivent ça depuis l'arrière du peloton. Et j'allais justement, effectivement, prendre Saint-Rhys Monk sur Paris-Roubaix. Bon, attention, hein, chaque année, on a un gars qui rentre le dernier. Forcément, il faut bien toujours un dernier. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait Tom Paco. Pour Wallonie-Bruxelles, qui était arrivé dernier. On se rappelle aussi qu'il y a encore un peu plus longtemps, il y avait un coureur dont j'ai oublié le nom, un lituanien, qui était arrivé. Et les grilles étaient fermées, donc il avait fallu rappeler le gardien, ouvrir les grilles. Voilà, c'est des histoires fantastiques, mais qui nous rappellent que ça reste un sport éminemment populaire et que finalement, au départ d'une course, il y aura un vainqueur, mais il n'y a que des champions finalement au départ.
Pour lituanien qui fait 9e l'année d'après d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Comme quoi.
Et d'ailleurs, juste petit détail, c'est dommage qu'on ne les voit pas, ces coureurs, en fait, hein. Parce que 80% du temps, les derniers kilomètres, on ne voyait que Mathieu Van Der Poel. Ce qui est
Ouais.
normal, hein, c'est le coureur en tête, mais ce serait intéressant d'aller voir un petit peu à l'arrière ce qui se passe, parce que à partir du moment où Alpecin fait la cassure, on n'a pas vu une seule fois ce qui se passe derrière.
Non, alors que pendant très 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 longtemps, selon les écarts transmis par d'autres sites, parce que même Tudor, j'aurais pu tiens reprendre Tudor qui est devenu manifestement le sponsor, enfin le sponsor, le chronométreur pardon, attitré de toute une série de courses et qui s'est royalement vautré sur certaines. Hein, on se souvient d'écarts qui étaient fantasques et qui ben, ont redéterminé finalement les résultats de certaines courses. Ici, on n'avait aucune information dans le direct télé, et puis c'est via d'autres sites, d'autres blogs parfois, où on apprenait qu'en fait, le peloton, il est à 2 minutes derrière. Il est resté très, très, très longtemps à 2 minutes derrière. Et puis, je ne vais pas vous rappeler évidemment ce qui s'est passé sur le Ronde avec ce groupe de favoris qui se jouent la victoire avec des attaques. Et puis au final, je pense que le Slibre est le top 10. On a 8 mecs dont on n'a pas cité une seule fois le nom de toute la course. Donc c'est assez étrange. Mais c'est vrai que ça montre aussi que on a été, nous en tant que spectateurs, peut-être aussi les personnes chargées de choisir les images, télévision, etc. On était obnubilés par un homme, mais par une équipe, Alpecin, Mathieu Van Der Poel. Ça fait, je pense, très longtemps qu'on n'avait plus assisté à une telle domination, peut-être la grande époque de la Mapei et encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette domination d'Alpecin sur les Flandriennes? Et puis, je vais déjà entamer cette transition vers les Ardennaises. Est-ce qu'on est en droit d'attendre? On sait que Mathieu Van Der Poel va faire l'Amstel, va faire Liège. Est-ce qu'on va encore avoir une domination d'Alpecin? Ou bien là, il y a d'autres équipes qui vont aujourd'hui commencer à rivaliser avec cette équipe belge?
Moi, sur ce que ça m'inspire au niveau des Flandriennes, j'ai envie de relativiser dans le sens où ils m'ont impressionné vraiment que sur Roubaix. Là, ça a été une vraie démonstration de force, c'était incroyable, mais incroyable. J'ai l'impression que Vermeer, j'étais le deuxième plus fort, ou
Ah oui.
Philipsen le deuxième et Vermeer le troisième, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, les trois Alpecin étaient peut-être les trois plus forts de la course. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Après, sur le run, je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas faire long, mais pour moi, ils ont maîtrisé tactiquement plus qu'autre chose. Je les ai pas non plus trouvés hyper dominateurs sur le run.
Ben oui, un peu comme toi, sur le run, ils m'ont impressionné, mais c'est aussi dû au fait, et pareil sur Roubaix, hein, mais c'est aussi dû aux absences, que ce soit chez Lidl ou chez Visma, notamment. Après, sur Roubaix, moi, voilà, quand on a vu la startlist, j'avais dit, justement, suite à ces absences, j'avais dit que Alpecin serait l'équipe la plus forte, indépendamment des leaders. Mais même en écrivant ça, je ne m'attendais pas un seul instant que Vermeer soit à ce niveau-là. C'est phénoménal. Voilà, je suis bouche bée devant ce qu'il a fait. Et donc voilà, ça m'inspire. Je ne sais pas si ça m'inspire grand-chose. J'étais vraiment choqué. Et sur les Ardennaises, je m'attends à une très forte équipe, notamment avec Søren Krag Andersen et Hermans, et bien entendu Van der Poel. Mais je m'attends à ce que Alpecin ne soit pas aussi dominateur, parce qu'il y a quand même d'autres équipes qui vont arriver. On va les détailler. Je pense notamment à IF, surtout, et éventuellement Bora aussi, qui n'avait pas forcément les armes sur les Flandriennes, mais qui arrive avec des sacrées équipes ici, sur les Ardennaises.
Oui, mais c'est vrai que c'est ce que Christophe Rotto, enfin, donc le patron d'Alpecin du Sénac, a déclaré, c'est que ils allaient prendre le départ des Ardennaises avec une autre stratégie que celle qu'ils avaient sur les Flandriennes, où là, il y avait clairement l'idée de contrôler les Flandriennes, Paris-Roubaix, forcément. C'est vrai, bien sûr, il faut saluer Mathieu Van Der Poel qui s'envole à 60 bandes de l'arrivée. C'est un exploit. Mais c'est vrai que jusque-là, il y a une course hallucinante, parfaite de la part d'Alpecin. C'était un peu, j'ai vu passer une image et ça m'a fait penser à une autre image. Hein, Paris-Roubaix, c'est l'enfer du Nord. On avait vraiment ce chien à trois têtes, le Cerbère d'Alpecin, avec Van der Poel, Philipsen et Vermeersch, qui était effectivement, je pense, le deuxième plus fort. Philipsen, d'ailleurs, a eu des commentaires depuis lors, hein, où il expliquait qu'il était bien, il avait de bonnes jambes, mais que finalement, il était déjà content d'être dans ce deuxième groupe et de ne pas avoir à travailler. Et il n'a pas mis un coup de pédale de trop. Et donc c'était assez intéressant à voir, où effectivement, et là c'est toujours Philipsen qui le disait, il avait le sentiment que, indépendamment de Mathieu, tout le monde dans l'équipe avait certainement eu peut-être son meilleur jour du printemps sur ce Paris-Roubaix. Et donc là, il y a clairement une équipe qui s'est préparée tout au long, et qui se prépare d'ailleurs depuis maintenant quelques saisons, pour briller sur ces courses-là, sur ces classiques-là, avec les meilleurs coureurs désormais, on peut le dire, hein, très clairement avec Van der Poel et Philipsen, qui axent véritablement leur saison là-dessus. Donc c'est logique finalement, c'est pas illogique de voir cette équipe dominer, surtout comme tu le disais Alexis, dans la mesure où Visma qu'on attendait qu'on attend chaque année d'ailleurs. Hein. On rappelle quand même que la dernière fois que Wismar a remporté un monument, c'est sur Liège et c'était en 2020 avec Roglic. Donc ça fait quand même longtemps. Mais donc on attendait peut-être Wismar, ben, voilà, en raison des chutes, des maladies, hein, parce qu'il n'y a pas eu que les chutes. Finalement, il n'y a que Van Aert qui est pris dans une chute et dans une moindre mesure Trapnik. Mais sinon, Laporte, Van Baal, ben, totalement absent de cette campagne de classique londrienne pour telle ou telle raison. Donc voilà, c'est un ensemble effectivement de planètes qui sont alignées en faveur d'une équipe. Et comme un symbole, on l'a vu sur Paris-Roubaix avec, oui, une crevaison pour Philippe Sen. Mais sinon, une équipe qui a vraiment été épargnée à cet égard. Et bah, pour les Ardennaises, on va voir. Je pense qu'effectivement, il y a une équipe qui sera en théorie moins forte, qu'il y aura d'autres équipes surtout qui seront plus fortes.
Surtout ça, oui.
Mais quand on a tel Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je ne sais pas, Damien, je te tends la perche.
Surtout, déjà sur les deux premières Ardennaises, la Flèche Brabançonne, il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, mais moi, si vous me demandez mon favori, ce sera peut-être Axel Laurens, parce qu'on parlait de Quinten
Ouais,
Hermans. Mais moi, j'aime beaucoup Axel Laurens sur ce profil-là, mais Quinten Hermans est en forme aussi. Mais par contre, effectivement, il y aura beaucoup plus de concurrence. En tout cas, le niveau semble plus homogène. Par contre, sur l'Amstel, oui, avec Van Der Poel comme ça, d'abord, on est de nouveau privé, puisque ça, normalement, Remco devait être là, et j'aurais vraiment bien aimé voir le match entre les deux. Là, je ne sais pas trop qui va pouvoir finalement rivaliser avec Mathieu. Il y aura du monde, hein. Il sera pas aussi favori que sur Arend. J'avais déjà dit ça pour Roubaix. Il sera pas aussi favori que sur Roubaix, quoique. Je sais
Quoique.
pas. Quoique, oui, il y a des beaux noms, on y viendra. Voilà. Donc sur les deux premières, c'est quelque chose. Sur les deux suivantes, c'est plus dur, hein. Beaucoup plus dur. Et là, je donne pas beaucoup de chance à Alpecin.
Ouais, en fait, moi, juste, je vais rester sur ce que j'ai toujours dit. Sur un Liège-Bastogne-Liège, je ne le vois pas rivaliser avec un Pogacar parce que sur des efforts de 4-5 minutes, je pense que Pogacar est hors du commun sur la redoute et dans la rechauffe au Con. Mais face aux autres grimpeur puncher, franchement, quand je vois la force de Mathieu, je le vois rivaliser, quoi. Ça, c'est ouais, sans souci. Donc, il n'y a qu'un gars qui, pour moi, le bat assurément sur les Ardennaises, et c'est Tadej Pogacar. Donc, sur l'Amstel, je n'aurais aucun. Je serais pas choqué de voir Mathieu s'imposer assez facilement, en fait. Il suffit qu'il s'envole avec son punch, et après, on va attendre qu'il ait une minute d'avance pour rouler derrière, et c'est fini.
C'est tout ce que je déteste, hein, les enterrements de première classe, j'ai tuté là-dessus, et malheureusement, c'est le cas 9 fois sur 10. Déjà, quand tu as un homme qui part, et en plus, maintenant, avec les fantastiques, j'ai l'impression que ça renforce le truc dans le sens où ils sont résignés. Ah, c'est ce mec-là, c'est bon, il est parti, quoi.
Et en plus, là, sur Roubaix, bon, on n'était pas forcément d'accord là-dessus, mais avec le vent de dos, à partir du moment où il a 30 secondes d'avance, je ne suis pas sûr que ça revient, même si ça collabore directement, quoi.
Ah, quand tu dis on n'est pas d'accord, je suis pas sûr non plus que ça revient. Donc on peut être d'accord. Juste, ils lui ont quand même fait un petit cadeau. C'est pas pour autant qu'il n'aurait pas réussi à partir. Mais
Oui.
voilà, je n'ai pas compris que ça s'attaque derrière individuellement plutôt que de se dire on va rouler. Alors oui, il y a Philippe Sen. Je sais. En fait, je trouve parfois que le cyclisme, il est figé dans des décisions d'un autre temps. Ah oui, mais si on roule, on ramène Philippe Sen. Ben oui, mais si tu ramènes Philippe Sen à 50 km de l'arrivée et que tu es revenu sur Van Der Poel, tu as quand même toujours une petite chance d'aller gagner. Si tu dis, bon, ben Van Der Poel est parti, donc on va pas ramener Philippe Sen, donc Van Der Poel a gagné, ben tu n'as plus aucune chance de gagner la course.
C'est
Donc
sûr.
il y a des décisions que j'ai toujours du mal à comprendre quand même. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on est en désaccord sur le fait que ce serait peut-être pas rentré, hein. Oui, Van Der Poel est tellement fort que peut-être que même en collaborant, il n'aurait pas réussi à revenir. Ça, j'en sais rien.
C'est marrant parce que si on se rappelle la première Flandrienne de la saison, hein, l'Omloop, on était beaucoup à être tombé sur le dos de Niels Politte en se disant, mais enfin, qu'est-ce que ce gars fait? Il roule pour la deuxième place, il s'en contente. Mais en attaquant. En attaquant ou en relayant. Donc, comme quoi, effectivement, c'est toujours compliqué. Il y a toujours plusieurs lectures à pouvoir donner au mouvement. Pour revenir sur les Ardennaises ici, on sait qu'effectivement, tu parlais de l'Amstel où sera présent Mathieu Van Der Poel avec d'autres noms, des noms qu'on n'a pas évidemment vus sur les Flandriennes, qu'on va voir sur l'Amstel, mais également sur la Flèche et sur Liège. Hein, je pense à des Ayuso, des Skelmos qui ont vraiment là le physique plutôt de grimpeur. Ça signifie quoi qu'on a Van Der Poel qui va sur le terrain des grimpeurs avec cette idée de pouvoir les battre, ou qu'on reste quand même sur des courses où on est plus sur le punch, et peut-être là, effectivement, on peut mettre une césure finalement entre d'une part l'Amstel et d'autre part les deux enfin, les monuments, les deux courses liégeoises que sont la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.
Bah,
Ah
pour
bon?
moi, on n'est pas encore sur la Lombardie. Et c'est pour ça que face à des purs grimpeurs, Van der Poel a sa chance. Mais face à un Pogacar qui est excellent puncher, je le vois moins avoir sa chance. Et là, je mets aussi d'autres gars dans le lot. Alors là, je ne sais pas encore dire comment ce que ça va donner face à Van der Poel, mais il y a des Ben Illy, des Skelmose, des Paoles, qui, eux, vont pas forcément aller performer sur des cols de 40 minutes, mais qui vont être plus forts sur des efforts de moins de 10 minutes. Et là, ils peuvent éventuellement battre Van der Poel, qui lui va être plus fort en punch pur, mais qui peut aller résister pendant quelques minutes supplémentaires. Donc c'est plutôt ce match-là qui est intéressant pour moi, Van der Poel face à des gars comme ça, plutôt que Van der Poel face à des purs grimpeurs, parce que pour moi, il sera plus fort que les purs grimpeurs à Liège.
Ouais, moi je vois quand même une différence, comme tu le demandais, Romain, entre les deux premières ardennaises et les deux courses wallonnes. Sur les deux premières, bon, Van der Poel ne sera pas sur la Flèche Brabançonne, mais ça convient quand même très très bien au punch de Van der
C'est
Poel.
clair.
La Flèche Wallonne, ça lui convient évidemment pas du tout, donc là on va même pas en discuter. Liège, ouais, je suis d'accord avec Alexis, il va vraiment y avoir match. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le grimpeur? Parce que Roglic, je suis curieux de voir. Faudra voir sa forme, évidemment, hein, parce qu'il est encore tombé. Donc, mais oui, je suis curieux de voir face à effectivement des Skelmose, des Ayuso sur Liège, ce que ça peut donner. Mais par contre, de toute façon, il y en a un qui coche toutes les cases et qui va donner beaucoup de fil à retordre à Mathieu Van der Poel. N'en doutons pas, c'est Maxime Van Gils.
Ah, ben justement, peut-être. Quelles sont les forces en présence qu'on n'a pas trop vues, évidemment, pendant ces Flandriennes, mais qui pourraient inverser cette tendance et donc voler finalement la vedette à Mathieu Van der Poel et ou à Alpecin de Senninck sur ses Ardennaises? Il y a forcément UAE, on sait que c'est un très très gros collectif avec Pogacar, mais il n'y a pas que lui, Ayuso, Hirschi, Almeida, il y a des coureurs très costauds. Visma, forcément, avec un Vingegaard en moins, mais de toute façon, Vingegaard ne vient pas courir les Ardennaises. Donc est-ce que finalement, il va pas y avoir un rééquilibrage un peu généralisé entre les différentes équipes et donc entre les forces en présence sur ces Ardennaises?
Si, si, bah, tu as cité UAE, pour moi c'est le groupe le plus impressionnant. Après, tu as pas mal de, soit d'individualités, soit de duos, et je trouve que dans plein d'équipes, tu as du monde intéressant. Voilà, je disais Van Gils en rigolant, mais Van Gils Kroon, je suis curieux de voir ce que ça peut faire pour Destiny. Alors Skelmose chez Lidl, Skelmose et Badjoli, c'est dommage
Et
que
ben,
Badjoli, depuis le début de saison, je ne le vois pas vraiment faire des trucs intéressants, mais voilà, le Badjoli de fin d'année dernière, c'est intéressant. Généos, il y aura un minima Pidcock. Je ne sais pas très bien avec qui il va être. Sur Pidcock, faut pas non plus s'y tromper. Hein. Sur Roubaix, c'est pas extraordinaire. Mais moi, j'avais déjà pas compris le projet de venir sur Roubaix. Bon, lui, il adore la course, il voulait venir, voilà. Mais là, il va trouver un terrain qui lui va quand même beaucoup mieux. À Pidcock, pour moi,
ben.
sur Liège, je le mets peut-être même devant Van der Poel. Hein. Parce que là, il a quand même fait une transition aussi, il faut pas oublier. Hein. Faut pas se baser sur ce qui s'est passé des années précédentes. Il avait délaissé les Flandriennes, vous me direz, il sort de Roubaix. Il avait délaissé les Flandriennes pour viser les Ardennaises. Donc voilà, j'attends de voir. Donc on a parlé chez Bora, il y a du monde. Oui, tu citais Paoles, il en est où finalement? Parce que on sait pas trop. Parce qu'un duo, il dit Paoles, ouais, ça aurait été hyper intéressant.
Pour moi, c'est le meilleur exemple. Hein, bon, il y avait Bettiol, évidemment, qui a fait une superbe classique, une superbe campagne flandrienne, mais pour moi, c'est le meilleur exemple d'équipe qui peut s'élever au rang, enfin, dépasser Alpecin. Là, tu vois, Alpecin était vraiment au top sur les Flandriennes, et quelle équipe va pouvoir passer au-dessus d'eux sur les Ardennaises? Ben, c'est un bon exemple, c'est IF, quoi.
Une équipe qui est par contre était un peu transparente sur les Flandriennes et qui depuis 2 ans sauvait sa saison enfin de classique, sa campagne de classique sur Liège-Bastogne-Liège, c'est évidemment la Soudal Quick-Step. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Soudal Quick-Step sur ces 4 courses qui vont nous intéresser maintenant,
Des meilleurs
Michel?
classements que sur les Flandriennes pour moi, mais pas de victoire, ça c'est sûr.
Moi, j'en attends rien. J'espère juste que peut-être que des jeunes vont se montrer, sans aller chercher un résultat, mais vont montrer qu'ils peuvent être intéressants pour l'avenir. Mais en termes de résultats, je ne vois pas très bien ce qu'on peut attendre.
En fait, ça dépend un petit peu les start lists, selon moi. Il n'y a pas encore grand-chose d'annoncé. Bon, un William le sait, on va pas évidemment pas attendre un podium ou quoi, mais je suis curieux de voir où il va se situer. Un Van Sevenant éventuellement sur la Flèche Wallonne qui peut aller faire un top 10, un top 15. Et puis Van Wilder, je ne sais pas s'il participe, qui non, a priori non. Donc on n'attend pas grand-chose, mais peut-être que la meilleure place de Soudal sur les Ardennaises sera meilleure, je pense, que la meilleure place de Soudal sur les Flandriennes.
Ça se possible. Van Wilder, apparemment, décision, choix d'équipe, ouais. Il les fera pas.
Okay.
Oui, il y a peut-être effectivement, on a parlé en début d'épisode des nombreuses chutes qui sont intervenues et qui nécessairement rebattent les cartes, d'abord pour les coureurs tombés, mais également pour leurs équipes. Si on prend l'exemple de Visma, on le sait, donc Vingegaard, à l'heure actuelle, en tous les cas, son Tour de France n'est pas assuré, loin de là. Qu'est-ce que va faire Visma si Vingegaard n'est pas dispo pour le Tour de France? Il leur faut un leader. Roglic est parti. Kenneth Brooks est programmé sur le Giro. Donc c'est quoi? C'est Matteo Jorgensen qui était appelé à être finalement peut-être leader ici sur les Ardennaises et qui va se trouver là-bas. C'est un Steven Kreuzway qui va essayer de jouer un top 5. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que du coup, les chutes, ça ne rebat pas aussi les objectifs finalement, peut-être à plus court terme, qui étaient peut-être moins importants, mais qui, voilà, on prend l'exemple de Soudal, effectivement. Soudal se dit, tiens, Remco, il est quand même mal barre, est-ce qu'on ne va pas assurer en allant mettre un Van Wilder peut-être au Giro qui n'était peut-être pas prévu dans un premier temps? C'est peut-être ça
Voilà,
aussi.
là. Oui, c'est tout à fait possible. Même si pour Visma, moi, je pars du principe que Vingegaard sera retour. Mais on verra. Et s'il ne l'est pas, Kelderman, Kuss, Jorgensen. On verra
Paul
bien
Van
qui.
Aert.
Wout van Aert.
Pour un classement général?
Non, oui, je dis ça, mais en plaisantant. Oui, moi, je suis d'accord avec Alexis. Et au pire, ce sera Jorgensen qui gagnera pas le tour, hein, mais je pense que Jorgensen, il peut faire quand même quelque chose d'intéressant s'il y va en tant que leader.
Mais faut se
Après.
décider maintenant, quoi. Hein. C'est ça qui est compliqué. C'est que il faut qu'il stoppe tout et qu'il aille refaire deux stages en altitude entre fin avril enfin entre maintenant et juin, juillet.
Jorgensen?
Ouais, parce qu'il peut pas continuer comme il sous pic de forme, c'était à Paris-Nice, normalement. Il peut pas continuer comme maintenant jusqu'au tour. Donc il va falloir tout changer, tout chambouler dans son. Et le problème, c'est que je pense qu'ils espèrent encore avoir Vingegaard, donc ils vont peut-être pas tout changer dans les plans de chacun maintenant, quoi. Donc je
Jorgensen
sais
est
pas.
prévu ici sur toutes les Ardennaises, je supposais, mais je ne sais pas, j'ai pas regardé. Vu qu'il était prévu pour le tour, je sais pas très bien ce qui était
Il est
prévu comme
prévu à
programme.
l'Amstel
Ok.
et pas encore sur Liège.
Ok. Mais globalement, oui, tu as raison, Romain, c'est sûr qu'il y a plein de coureurs, à mon avis, qui doivent revoir leurs objectifs. Et donc, par un jeu de domino, peut-être que d'autres vont être amenés à changer leur programme, clairement.
Des équipes qui vont changer leur programme, c'est évidemment, donc on a dit, Soudal, l'Auto-Destiny, il y a quand même Van Gils, il n'y aura pas Van Nedveld, puisque Van Nedveld, ça fait un mois qu'il est à l'arrêt blessé au genou. On l'a dit, Soudal, pour la chute de Remco. On a évoqué la chute de Wout, qui n'aurait de toute façon pas été sur les Ardennaises, mais ça commence à faire beaucoup. On le sait, on est un podcast belge, donc on va s'intéresser ici quelques minutes au cyclisme belge. Est-ce qu'on peut parler d'une poisse qui touche le cyclisme belge, sachant que tous les noms qu'on vient de citer sont out pour X ou Y raison. On a évoqué lors du dernier numéro le cas de Lee, Arnaud de Lee, maladie de Lyme. Qu'est-ce qui se passe finalement dans le cyclisme belge et est-ce qu'on est si mal loti que ce qu'on pourrait l'imaginer?
On peut rajouter Gerben Theissen aussi qui est out. Enfin, et si ce n'est pas une figure star de notre cyclisme, on peut évoquer Steph Kras, hein, qui est quand même la principale victime, peut-être, enfin principale en tout cas, qui est le plus touché peut-être de cette chute au Pays Basque. Bon, après la poisse, on va pas refaire le débat. Quand est-ce que c'est de la poisse, quand est-ce que ça n'en est pas, j'en sais rien, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais clairement, on n'est pas épargné, on va dire, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'on est aussi démunis que ça du coup? C'est marrant parce que qui aurait parlé de Van Gils? Qui aurait misé sur le run que Teuns a fait? Au final, j'ai l'impression, je vais pas dire qu'on a un vivier et un réservoir inépuisable, mais quand tu as des absents, tu as des autres. Alors bien entendu, attention, hein, Teuns, il a fait un beau run, c'est pas Van Aert, Van Gils, c'est pas Remco, bon voilà. Mais tu as l'impression qu'il y en a toujours un ou l'autre qui va sortir
Ouais, et puis Philipsen fait quand même deux de Roubaix, donc C'est clair que là, on est fortement démunis, mais il reste quand même des cartes intéressantes, plus qu'intéressantes même. Ça en dit long sur notre vivier. Il y a quelques années encore, ça aurait été absolument impensable. Donc oui, Poisse, pareil, je ne vais pas rentrer dans le débat. En tout cas, pour le spectateur belge que nous sommes, c'est très douloureux. Mais il y aura toujours. Voilà, on a cette chance, dans la malchance, entre guillemets, d'avoir un vivier assez important pour pouvoir vibrer. Moi, une de mes seules raisons de vibrer devant ce round, c'était d'espérer un top 10 belge, parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire un round sans top 10 belge. Ça a été le cas. Donc voilà, Paris-Roubaix aussi. Et donc voilà, on peut continuer à vibrer, mais différemment. Peut-être moins de chances de victoire, mais toujours présent dans la course.
Ouais. On
Oui,
a quand même un
puis.
Tim Merlier qui est tombé, mais qui est...
Ouais.
on va voir comment ça va, mais c'est quand même peut-être le même, je vais être un peu provocateur, mais je le pense, qui est le meilleur sprinteur du monde. Pardon à Jasper, mais... Donc, c'est fou quand même, hein, malgré tous les absents, qu'on ait encore hein,
Ouais.
autant de qualité.
Et Jasper, qui est le seul cycliste en activité qui bat Mathieu Van Der Poel sur, sur des monuments, puisque c'était le cas sous Milan-San Remo. Hein, on a quand même remporté un monument déjà cette année-ci.
C'est vrai.
Est-ce qu'Alpecin fera la passe de 4 avec, si on rappelle, Alpecin, première équipe de l'histoire à remporter pardon, les trois premiers monuments de la saison. Est-ce qu'ils vont remporter Liège-Bastogne-Liège avec Mathieu Van Der Poel, avec Quinten Hermans, avec quelqu'un d'autre? Ben voilà, les paris sont ouverts. On reparlera bien évidemment de Liège-Bastogne-Liège d'ici là. En tous les cas, peut-être avant de se terminer, la première des Ardennaises, c'est très rapidement, c'est la Flèche Brabançonne. Alexis, c'est dans ton jardin. Qu'est-ce qu'on
Ouais,
doit attendre de cette Flèche
littéralement,
Brabançonne qui,
ouais.
justement, il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel.
Ouais, une course qui, à l'image de cet épisode, en fait, hein, est une magnifique transition entre les Flandriennes et les Ardennaises, parce que c'est une course qui va se rapprocher un peu des Ardennaises, de l'Amstel, dans sa configuration, mais qui contient deux côtes pavées, en fait, mais qui sont parcourues quatre fois chacune, je pense. La Herstraat et la Mosquestraat, alors ce ne sont pas les pires côtes pavées du monde, loin de là, surtout la Herstraat qui est une rue toute droite et pas très raide avec du bon pavé. La Mosquestraat, le pavé n'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus raide. Idéal pour les qualités d'un Mathieu Van der Poel qui ne sont pas là, ou d'un Axel Laurens qui sera là. Donc peut-être que le quatrième monument de l'année, qui est, je le répète, la Flèche Brabançonne, sera gagné par un Alpecin. Donc voilà, superbe course que je conseille à tout le monde de regarder, une belle transition. Des super routes que je connais par cœur et voilà, j'ai toujours hâte de regarder cette course.
Tenant du titre, Dorian Godon de chez AG2R. On en avait discuté avec Cyril Saugrain lors d'un épisode spécial. Spécial cyclisme français, Cyril Saugrain nous avait, rappelez-vous, hein, livré son secret, en tout cas le secret de chez Decathlon et de chez Van Rysel, qui était de voir un jour un coureur remporter Paris-Roubaix. Cette année-ci, le meilleur Decathlon, je n'ai même pas été revoir sur le Tour d'Hivernassen, j'imagine, qui a fait autour de la 20e position. Ici, peut-être aussi une équipe qu'on avait vu très en vue au début de l'année, qu'on a un peu moins vu assez curieusement ces dernières semaines, mais qui vient avec un Benoît Cosnefroy qui, si de nouveau toutes les peines sont alignées, peut-être voilà quelqu'un qui est capable de venir jouer la gagne sur les quatre courses qui vont arriver. Hein. C'est peut-être un des rares qui a le profil pour s'imposer sur les quatre. Ce sera à voir en tous les cas dans les jours et semaines à venir. En tous les cas, Alexis et Damien, on va vous souhaiter évidemment de bonnes Ardennaises et on se retrouve rapidement pour débriefer les premières courses et pour évoquer les suivantes et notamment la doyenne. Allez, ciao tout le monde!
Ciao, ciao.
Salut.